À voix nue, Camille Jusa cette semaine avec
Renzo Piano, architecte.
Épisode 2, Gênes, encore et toujours. Renzo Piano, bonsoir. On va faire un gigantesque saut dans le temps. Hier, vous nous parliez de Beaubourg, ce chantier épique des années 70 qui a vu la naissance d'un des musées les plus célèbres au monde, un musée qui a changé la vie culturelle française, bien sûr, mais aussi la vôtre en vous projetant dans une carrière internationale. Mais ce soir, on va parler de Gênes, votre ville natale, et on pourrait commencer le 14 août 2018, quand s'effondre à Gênes, justement, le pont Morandi, un pont en béton des années 60 qui enjambe une des vallées de la ville, de nombreuses infrastructures ferroviaires, des entrepôts, des habitations, et qui a causé la mort de 43 personnes. Il peut à peu près rien arriver de pire en architecture que l'effondrement d'un bâtiment. C'est vraiment une forme de trahison. Qu'est-ce que vous vous dites ce 14 août 2018 quand vous apprenez cette nouvelle ?
C'était un moment horrible, terrible, terrible. J'étais dans ma petite maison dans la montagne en Suisse. Et il pleuvait d'ailleurs partout. Et le maire m'appelle et me dit, le pont s'est écroulé. Lequel ? Parce que ce pont, il a toujours été... C'était un beau pont. Je l'aimais beaucoup. Mais c'était aussi l'arrivée dans la ville. Moi, j'ai habité assez longtemps à Milan. Et je revenais à Gênes le week-end, c'était toujours l'arrivée dans la lumière de la Méditerranée. On découvrait la lumière de la mer, un autre monde. C'était là qu'on est. Et c'était un drame terrible, 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 terrible. Et j'ai toujours aimé les ponts. Les ponts, c'est quelque chose de magnifique. J'avais déjà construit des ponts au Japon. D'ailleurs, j'ai mis des ponts partout. Dès que je peux, même récemment au CERN, à Genève, je mets des ponts. Dès que je peux, je mets des ponts. Et ils font un bon travail. Ils font un travail opposé à celui des murs. Il ne faut pas faire des murs. Il faut faire des ponts. Là, ça marche toujours. Ou presque. Mais, et alors là, j'ai commencé à réfléchir parce qu'il fallait évidemment aller vite. Et après, rien n'est facile. Tout est compliqué, bien sûr, il a eu un concours, blablabla. Mais on a une idée très simple, très très simple. C'était de découper le chantier en deux. Moi, je mélange toujours le travail du bâtisseur, de celui qui construit des choses, avec celui qui réfléchit sur l'éthique d'un projet. À quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? C'est d'ailleurs une petite question que je me pose chaque jour, moi, encore même à mon âge. Pourquoi on fait ça? Moi, je me suis posé cette question, bien sûr. La réponse était facile dans ce cas. Et mais il y a aussi un côté poétique. Toujours, toujours. Un pont, il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il parle avec l'air, avec la lumière. Et en plus, ce pont, il est grand, il est long. Un kilomètre, plus qu'un kilomètre. Et il marche à 50 mètres d'hauteur sur le sol. Il fallait qu'il soit beau, que la lumière le caresse, comme une sorte de bateau qui traverse. Alors l'idée était très simple, de couper le chantier en deux et faire la moitié du chantier en béton et l'autre moitié en acier. Et la partie en béton, bien sûr, était construite par quelqu'un qui fait du béton et qui a travaillé tout de suite sur les fondations, sur les piliers et tout ça. En même temps, les autres, dans les chantiers maritimes, dans toute l'Italie, ils construisaient le pont comme des bateaux. Alors, le pont est fait 1,2 km, il y en a eu pratiquement une vingtaine. Et ces pièces arrivaient au fur et à mesure que le travail du charpentier continuait sur le béton. Et dès que les poteaux étaient prêts, paf, on a commencé à monter ça. Des pièces de 500 tonnes, 1000 tonnes. Et c'était incroyable, incroyable. Avec des grands grues, ces pièces qui montaient. Ça a été une aventure, à propos d'aventure, à propos de lieux magiques. Un chantier toujours magique. Là, on a eu 1000 ouvriers. Ils n'ont pas arrêté un seul jour. Il n'y a pas eu d'ailleurs un seul accident.
Quand cette pièce, elle arrive et qu'elle est posée, vous êtes là, vous retenez votre souffle, Parce que c'est une responsabilité toujours. Gigantesque.
Toujours, toujours, toujours. J'adore les chantiers. J'adore les chantiers, c'est des lieux de magie. Aussi, j'adore pour une raison très simple, c'est que j'ai grandi dans les chantiers, moi. Quand j'étais un enfant de 7 ans, 8 ans, 6 ans peut-être, mon père m'amenait très souvent sur les chantiers. Et j'étais assis sur un tas de sable. Il me disait, bouge pas, reste là. Et c'était des chantiers petits. Mon père avait peut-être une dizaine d'ouvriers. Mais il avait toujours sa veste, le chapeau et la cravate. Toujours. C'était un homme avec de respect, quoi. Je regardais ça. Et un chantier pour un enfant de 7 ans, c'est un endroit de magie absolue. Parce qu'un jour, vous avez du sable, des pierres, des briques. Le lendemain, vous voyez un mur, vous voyez un poteau qui tient droit. Et la magie du chantier est gigantesque. C'est l'art de construire. L'art de construire. C'est pour ça que j'espère que les gens qui nous entendent et comprennent ça, puisque ça vient de dedans. Tout le monde est bâtisseur au fond. Tout le monde. Il y a même, mon père me disait souvent, il y a un mal qui s'appelle le mal de la pierre. Et beaucoup de gens ont le mal de la pierre. Ils ne s'arrêtent pas d'essayer de construire des choses. Et quelquefois, c'est même légèrement dangereux. Mais en bref, l'amour pour le chantier, la passion du chantier, c'est ça, parce que c'est la magie de voir le passage entre la matière brute et le fait que, à travers la maîtrise de la force de gravité, qui est toujours pas facile à apprivoiser, et tu arrives à construire quelque chose qui tient. Quelquefois, tu fais quelque chose qui est un pont d'un kilomètre, deux, à 50 mètres d'hauteur, et l'autre fois, tu fais une tour à Londres qui fait 300 mètres dans l'air, l'autre fois, tu fais encore d'autres choses, un aéroport dans la mer du Japon, mais ces chantiers-là sont toujours des endroits incroyables. Et ce côté chantier, ça ne m'a jamais abandonné, même encore aujourd'hui, à mon âge. Ici, dans cette agence qui s'appelle justement le Building Workshop, hein, non? Renzo Piano Building Workshop. Bah, ça veut dire quoi? Il y a des génies dans cette agence, absolue. Ils sont mieux que moi, j'en suis sûr. C'est génial. Et ils sont tous des gens qui adorent construire.
Hier, vous nous disiez, je suis d'une famille de bâtisseurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait dans votre famille?
Oh, c'est très simple. Mon père avait une petite entreprise, je crois que c'était une dizaine de personnes, pas plus, peut-être un petit peu plus, légèrement 15 peut-être, en tout cas c'est. Et mes oncles étaient des constructeurs, et mes grands-pères étaient aussi constructeurs, et mon frère qui était aîné de 10 ans, quand j'avais 8 ans, lui il avait 18, il était déjà sur le chantier, et lui il avait fait des études d'ingénieur. D'ailleurs, quand j'ai fini l'école et j'ai dû décider pour l'université, j'ai décidé de faire l'architecte. Alors, je suis allé voir mon père. Il s'attendait évidemment que je fasse l'ingénieur, que devienne constructeur. Et je lui dis, j'aimerais bien faire l'architecte. Et il me regarde. Il ne parlait pas beaucoup, mon père. Il était génois. Il ne parlait pas beaucoup.
Il
me regarde et il me dit, mais pourquoi? Fini, fini. Je dis, je n'avais pas une bonne raison. Franchement, j'avais pas une bonne raison. La seule bonne raison, c'est qu'à cet âge-là, quand tu as 18 ans, 19 ans, tu veux partir de chez toi. Tu veux partir. Il n'y avait pas la faculté d'architecture à Gênes à l'époque. Alors, je suis parti à Florence, après je suis parti à Milan et tout ça. Mais chez moi, tout le monde respirait. Respirer le sable, c'était ça, c'était la matière dans laquelle tout le monde était fait.
Et ça lui paraissait incongru de vouloir être architecte?
Oui, mais en réalité, enfin, je veux pas, bien sûr que je suis architecte, j'adore ce métier, c'est un noble métier que je défends. Mais je suis quand même architecte d'une façon un petit peu différente, parce que je mélange toujours, toujours continuellement et le travail de l'architecte avec celui de l'ingénieur et du constructeur, du bâtisseur. Vous savez, dans mon métier, si je vous raconte comment se passe ma journée, je peux peut-être essayer de le faire rapidement. Ce matin, par exemple, j'arrive à 10 heures, j'entre, Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je vais faire. Et la musique commence, et la danse commence. Quelqu'un me pose des questions. Il y a 10 heures, je suis bâtisseur. Parce que la question, je crois que ce matin, par exemple, on parlait du grand hôpital de Paris. Alors là, c'était un problème de construction à régler. Bon, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais une trois quarts d'heure plus tard, je deviens un humaniste. Puisqu'on parle d'un projet d'université dans le Bangladesh pour les femmes qui en fuite des pays dans lesquels ils n'ont pas droit à faire des études. Et là, la clé, pendant trois quarts d'heure, tu es un humaniste. Et après, si je ne me trompe pas, autour de midi, midi 30, là, c'était un détail de Pathé Palace qu'on termine très prochainement à Paris, ici, à l'Opéra. Et là, l'argument était plutôt, je dirais, poétique. Ça a à faire avec la lumière. C'était une discussion sur la lumière. Comment est-ce qu'on peut faire rentrer la lumière, bien sûr, pas dans les salles de cinéma, mais dans le bâtiment. C'était le rapport avec la lumière, qui a une matière incroyable. Vous voyez, vous mélangez tellement, tellement les choses. Vous êtes, à un moment, vous êtes poète, et il y a un autre moment dans lequel vous êtes bâtisseur, constructeur. Et si vous ne savez pas, vous savez qu'est-ce que j'ai dans la poche? Regardez qu'est-ce que j'ai dans la poche. Voilà, c'est ça. Et je mesure tout.
C'est un mètre.
Un mètre. Puisqu'il faut savoir imaginer une poutre qui va d'ici jusqu'à là, elle fait combien? Plus ou moins. Et tu ne te trompes pas de double. Il faut peut-être te tromper de 5%, voilà. Mais pas plus. Et c'est ça ce qu'il faut. Il faut avoir cette attitude dans laquelle tu mélanges constamment.
Avec cette idée que la technique, elle est très importante, qu'il faut savoir faire des choses techniques, il faut savoir construire, il faut s'intéresser aux principes constructifs. C'est ça que vous avez retenu du métier de votre père?
La technique, là, était une chose qui entre dans la peau et s'en sort plus. Et vous l'avez avec vous. La vie avec vous. Et c'est la façon qu'il faut faire, et dans laquelle il faut imaginer la technique. La technique ne vient pas après, elle vient avec. Et dans tous les métiers que je connais d'art, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit n'importe lequel, le côté technique, la techné, voilà, comme ça, on le dit en grec, comme ça tout de suite on comprend, c'est quelque chose qui vient avec. Mais bien sûr, il y a la poésie. Il y a ce désir de beauté. Vous savez, c'est difficile de parler de beauté. C'est un terrain délicat. Puisqu'on a l'air d'être frivole, quoi, un petit peu. Mais il n'y a rien de plus profond que la beauté. La beauté profonde. La beauté qui nous appartient. La beauté primaire. C'est celle qui nous fait dire une belle personne. Une belle idée. Et ça, c'est quelque chose de très, très profond. Et ce désir, il est très important. Et dans l'architecture, il y a ça. Inévitable. Et là, à propos de ça, oui, c'est vrai. Gêne, moi, ça me revient. J'ai appris ça récemment, hein. Je ne savais pas avant, mais ça me revient puisqu'il y a une chose qui vient de là. C'est la lumière. La lumière de la Méditerranée. Vous voyez, c'est une ville qui regarde vers la mer. Et la mer, c'est au sud. La lumière vient du sud. Elle touche l'eau et elle revient sur la ville. Et du coup, vous avez une perception. La mer n'est jamais la même. Elle change tout le temps. Et j'ai des souvenirs. Vous me rappelez ça. Par exemple, le fait que le dimanche, assez souvent, mon père, après la messe, il m'a mené au port. Mon père était un homme de terre. Bien sûr, il était bâtisseur. Et j'ai une grande admiration encore maintenant pour lui et ce qu'il faisait. Mais il y avait un moment dans lequel il m'a mené dans le port. Il n'y a rien de plus beau au monde qu'un port. Un port. Puisque un port, c'est comme une ville. Une ville dans laquelle les bâtiments, justement, les bâtiments, se déplacent. À 10h30, il y en a un ici, l'autre qui arrive, l'autre qui part. en une heure, tout est changé. Il y a déjà ça, mais surtout, il y a le double, il y a le reflet. Tout vole dans un port, tout vole. Il y a les grues qui font voler même les voitures. Tout vole, tout s'envole. Et les bateaux, d'ailleurs, volent. Enfin, ils ne volent pas, ils flottent. Mais en tout cas, ils ne touchent pas terre. Et toute cette idée d'un lieu dans lequel vous avez l'eau, vous savez, quelqu'un a écrit que l'eau fait les choses belles. C'est vrai, c'est vrai. Même à Paris, ici, quand je suis à côté là, de la Seine, je me promène le long de la Seine tout le temps, ça fait les choses belles. Ça donne des reflets, la lumière. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est de ça que les racines sont faites. Si on ne parle pas de questions un petit peu rhétoriques, puisqu'on peut construire des châteaux de rhétorique sur ses propres racines, hein, si on ne fait pas attention. D'ailleurs, c'est dangereux de parler de ses propres racines quand tu as 40 ans, 50 ans. C'est pas mal quand tu as 80 ans. Là, tu es sûr de toi. Mais ses propres racines sont vraies. C'est un thème vrai. Et ça touche pas seulement aux questions pratiques. Moi, ton père constructeur, bababababa. Mais ça touche aussi à l'imaginaire. Quand tu as 7 ans, 8 ans, a déjà été enregistré dans ta tête, dans ta mémoire. L'essentiel, c'est de ce que tu vas être vraiment. Il faut simplement ne pas l'effacer pendant la vie. Il revient tout le temps. Et tu sais pas. Tu le découvres à un moment donné, tu découvres que... C'est pour ça que finalement, moi j'aime bien les bâtiments qui sont comme des bateaux qui s'envolent.
Très transparents, légers.
Oh bah oui, mais c'est... C'est une question qui, d'ailleurs, n'est pas bête sur le plan pratique, parce que si tu fais un bâtiment comme, je parle de Whitney à New York ou d'autres bâtiments que j'ai construits, qui s'envolent, ça veut dire qu'ils ne touchent pas le sol. Enfin, bien sûr, ils touchent le sol, mais ils laissent quand même le rez-de-chaussée libre dans la ville. Ça veut dire que le bâtiment, il ne vole pas l'espace à la ville. Il laisse l'espace à la ville, il laisse la ville venir. Et du coup, voilà que tu as cette idée que le bâtiment, il s'envole, et pour que la ville vienne avec. Et c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui vient, je crois, je sais pas, maintenant, je vais pas faire de la psychanalyse, autopsychanalyse, mais, enfin, je crois que ça vient de ça. Ce rêve du bateau dans le port de Gênes, dans les années 50, 45, enfin, après la guerre, naturellement. Vous savez, moi, je suis fils de la guerre. Je suis fils d'un désastre. Et il y a aussi un autre souvenir que j'ai de ça. Je n'ai pas vu la guerre. Oui, j'ai vu la guerre. Je suis né en 37, alors, mais je n'ai pas souffert la guerre. J'étais trop petit. Mais par contre, quand la guerre est finie, j'ai vécu le moment après la guerre. Et ça, je m'en souviens parfaitement. Et ça, c'est dramatique. Mais ça veut dire que chaque jour qui passe, les rues sont légèrement plus propres. Et la nourriture à la table est légèrement meilleure. Et maman sourit plus souvent. Et ton père, il est plus serein. Et du coup, tu construis ton adolescence et ta jeunesse avec l'idée que le temps qui passe fait les choses meilleures, améliore les choses. C'est quelque chose d'incroyable que tu portes avec toi. C'est une sorte d'optimisme qui devient une sorte de capital qui t'amène avec toi. D'ailleurs, d'être architecte, bâtisseur, constructeur, et ne pas avoir ce sentiment d'optimisme, et c'est un petit peu... Alors, il faut changer de métier, évidemment, puisque tu ne peux pas faire autrement. Mais je crois que tous ces aspects-là, cette histoire, ce souvenir du temps passé après la guerre, et dans cette atmosphère dans laquelle... Tous, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année devient un petit peu mieux. Le monde s'améliore. Et tout ça va avec les reflets d'eau dans le port de Gênes, les journées passées sur un tas de sable, et dans le petit chantier de mon père. Tout ça, ça revient tout le temps.
Et pourtant, Renzo Piano, dont vous avez fait vos études d'architecture à Florence, et puis très vite, vous êtes parti, en fait. Vous êtes parti à Londres. Vous étiez probablement bien dans le port de Gênes ou à Gênes. Mais qu'est-ce qui vous a fait partir? Pourquoi vous n'êtes pas resté dans cette Italie qui était très foisonnante sur le plan architectural? On avait d'un côté, Super Studio qui pensait à la fin de l'architecture, à la question du progrès, de la technique, etc. De l'autre côté, on avait le début du postmodernisme avec des gens qui regardaient plutôt vers le passé. C'était très fort, les courants architecturaux en Italie. Pourquoi vous êtes parti à Londres?
Je crois qu'il y a deux types de Genois. Il y a ceux qui restent accrochés au quai de la ville, au port, et les autres qui partent, qui s'envolent, mais qui reviennent naturellement. Et je suis parmi les deuxièmes. Je suis cosmopolite par nature, je ne sais pas pourquoi. Je suis parti, c'est vrai. Assez tôt, je suis parti. Je suis allé à Londres. Et après, à Londres, on a gagné le concours pour le Centre Pompidou, Beaubourg. On est venu à Paris, qui est devenu ma ville. Paris est ma ville. Moi, je suis comme Josephine Baker. J'ai deux amours. Mon pays est Paris. Mais j'ai aussi aimé beaucoup Berlin. J'ai commencé à Berlin. J'ai beaucoup aimé et même habité New York. J'aime même Los Angeles. J'aime Tokyo. Vous voyez, c'est inévitable. Si vous faites des abris pour les gens, les abris sont des lieux publics, en réalité, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas des villas, je parle plutôt, je n'ai rien contre les villas, naturellement, mais moi, j'ai construit plutôt des bibliothèques, des musées, des salles de concert, des universités, des écoles, des hôpitaux. Eh bien, quand tu construis ça, il faut aimer l'endroit dans lequel tu construis. Il faut. À New York, tu dois devenir New Yorkais. Pas de question. Tu ne peux pas être une personne de passage. Il faut aimer les endroits. Il faut les connaître. Il faut aimer Tokyo. Il faut aimer Los Angeles. Quelquefois, ce n'est pas facile. Je viens de terminer un bâtiment à Istanbul. J'ai aimé Istanbul. Tu te sens un citoyen de la ville. Si tu ne fais pas ça, il y a quelque chose de fou. Si tu construis, c'est aussi quelque chose qui reste, des siècles. Tu vois? C'est d'ailleurs un métier très, très dangereux, le mien. Si tu te trompes, si tu fais un mauvais livre, ben, personne ne le lit. Si tu fais une mauvaise musique, personne ne l'écoute. Mais si tu fais un mauvais bâtiment, celui-là reste à toujours, ou à très, très longtemps, il reste. Vous voyez, c'est aussi la raison pour laquelle il faut être têtu, c'est vrai, mais il faut être aussi sage. Il faut, par exemple, comme architecte, tu dois accepter les critiques. Et les seules critiques qui marchent sont celles qui te dérangent. L'architecture, c'est une art publique. Il ne faut pas se tromper. Alors, du coup, tu es responsable. Si tu fais une bêtise, tu ne fais pas seulement pour toi. Et tu la fais pour toute une communauté. Et c'est quelque chose qui reste trop longtemps. Il faut alors accepter. Il faut l'art d'écouter. Qui n'est pas enseigné à l'école, tu l'apprends dans la vie. Et c'était d'ailleurs les premières occupations universitaires. Nous, à Milan, on avait fait notre petit mai 68, on l'avait fait dans 64. Et vous savez, à cet âge-là et à ce moment-là, à l'école, on apprenait à marcher sur le trottoir de la ville, parler avec les gens, se poser des questions. Regarder le soleil dans le ciel, le parcours du soleil, le mouvement de l'eau dans les fleuves. Tu dois apprendre ça. Et tu apprends aussi que ce que tu fais reste. C'est pour ça que quand on a gagné le concours de Beaubourg, on était fous, jeunes, mais pas irresponsables. On avait compris qu'on était responsable de quelque chose qui était resté. Ah d'ailleurs, c'était Monsieur Pompidou, qui nous avait dit, le jour qu'il nous a reçus avec Richard, il nous dit, mais vous comprenez, Monsieur Piano et Monsieur Rogers, que, dans son bon français, bien sûr, que ce bâtiment que vous allez construire va durer 500 ans. 500 ans. Oh là là. Et nous, on s'est regardés les deux. On n'avait jamais rien construit qui dure plus que 6 mois, nous. Jamais. Jamais. Mais quand même, c'est pour comprendre les choses. Quand on est parti, on se regarde à nouveau et on dit, mais 500 ans, Mais pourquoi seulement 500 ans? Parce qu'on avait quand même compris une chose, que c'était délicat, c'était sérieux, c'était du sérieux. Il fallait pas se tromper, il faut aller écouter. Écouter les gens, ça veut pas dire obéir, mais il faut écouter. Et ça, c'est une art qui est très, très délicate.
Je voudrais quand même vous poser une question sur le vieux port de Gênes. En 85, on vous a demandé de refaire le port de Gênes. C'était en vue du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par le Génois Christophe Colomb, qui n'est pas parti de Gênes, hein, mais qui était Génois.
J'aime beaucoup Gênes. C'est une ville silencieuse, sobre. Il y a des grandes qualités. Et cette idée de faire dans le port, dans le vieux port de Gênes, un projet pour l'anniversaire de Colomb, là, en 1492. Et c'était un projet très génois. Et c'était aussi une façon pour restituer à la ville le rapport avec la mer, puisque c'était perdu. Et Gênes a une mer qui n'est pas balnéaire. La mer de Gênes, c'est la mer de travail. C'est justement la mer du port.
C'est là qu'est votre bateau. Vous avez un bateau que vous avez dessiné vous-même. C'est là qu'il
est. Oui, j'ai fait des bateaux tout le temps. J'adore les voiliers, moi. J'en ai construit 5 ou 6, peut-être. Toujours pour moi, hein. C'était toujours. Le premier, je l'ai fait moi-même. J'avais 18 ans, je crois, plus ou moins. C'était tellement maladroit que j'ai construit dans le garage de la maison. Et je me suis trompé, naturellement, avec la largeur du bateau. Du coup, quand j'ai fini, il ne sortait pas. Et j'ai dû casser la porte. Et c'est là que mon père, qui disait jamais rien, il m'a quand même regardé et dit, mais tu es quand même un imbécile. Tu veux faire l'architecte, tu n'es même pas capable de prendre la mesure de l'âge des bateaux, puisque j'ai dû casser la porte. Et celui-là, c'était un bateau de 7 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'ai beaucoup navigué avec ce bateau.
Il flottait.
Ah ben bien sûr. Les bateaux à voile, ils ne flottent pas seulement. Il s'envole. Ah, c'est un dialogue avec l'eau, c'est le silence, c'est la lenteur, c'est le jeu, c'est le flirt avec la brise, il y a tout ça, il y a tout un rapport qui est d'une beauté incroyable. Et après, depuis, chaque 10 ans, plus ou moins, j'ai rajouté 3 mètres, comme on fait toujours. Mais je navigue encore sur un bateau à voile maintenant. Moi, dès que je peux, et quand je vais à Gênes, dès que je peux, beau temps, mauvais temps, peu importe, j'y vais. Et on est bon marin, quoi, tout le monde. J'ai toujours embarqué mes enfants, dès qu'ils avaient, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Il y a dans la voile et dans le rapport avec l'eau, avec le bateau, quelque chose qui touche à cette idée de beauté. Donc c'est difficile de parler trop, parce que c'est intouchable. On n'arrive pas à toucher.
Merci Renzo Piano. On se retrouve demain et on partira à l'assaut du globe. Et vous nous raconterez comment vous avez navigué justement dans cette grande compétition architecturale mondiale. C'était À Voix Nue avec Renzo Piano, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Yann Fressy, réalisation Nathalie Salle, une série de Camille Jusa, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France. Thank you.